Dimanche le 7, bienvenue en prenant votre café. Comment ça va aujourd'hui? Tendez ce café. Achève, c'est peut-être aujourd'hui la dernière. C'est peut-être. C'est la sœur, la fête. C'est la fête à ma sœur Véronique. Bonne fête, Véro. Bonne fête, Véro. Encore des manifestations d'agriculteurs. Il faut séparer ce qui se passe en France versus ce qui se passe ici. On va en parler encore, puis on va en parler souvent. Hein? Valérie Plante est-elle, après 7 ans, l'homme de la situation? Attention, c'est elle qui l'avait dit qu'elle était l'homme de la situation. On va parler de ça. Le dollar canadien va-t-il baisser à 70 cents? Peut-être, probablement, je vais vous dire pourquoi. Tesla n'est pas Volkswagen et ça commence à apparaître en tabarnouche. Hein? Vous allez voir le lien que je fais. Better, lucky than smart. On va parler d'NVIDIA. Gen X, ça c'est moi, c'est ma génération, c'est peut-être votre génération. Qu'est-ce qu'on fait avec notre retraite qui approche à grands pas? Hein? Où on va habiter? Est-ce qu'on vend? Acheter une maison ou attendre justement, c'est ça. Puis, d'autres subventions dans des entreprises qui congédient des gens. Alors ça tout de suite. Allez, on va se le dire là. L'éclipse, ça commence à ressembler au bug de l'an 2000. Hein? On s'en fait des histoires, puis là, les hôtels sont pleins. Puis là, où est-ce que ça va passer? Il faut fermer nos yeux. On ferme les écoles, on ferme les prisons. Ceux qui ont vécu le bug de l'an 2000, là, ils peuvent voir un lien pareil. Hein? J'ai pas acheté de lunettes, puis ils vont l'écouter à TV. Ils vont m'installer devant la TV avec une eau pétillante. Hein? C'est lundi, on ne prendra pas de bière en écoutant ça. Là, ils vont dire, mais c'était juste ça. C'est à peu près ça. C'est quand même un événement intéressant. Mais on ne va pas changer le monde. Comme quand j'ai vu la première fois la Tour Eiffel, oh my God, c'est comme à TV. Comme les petites boutiques du Vieux-Montréal où on vend des cossins pas chers, là, made in China ou made in Taiwan. Donc voilà, quand j'étais jeune, c'était ça, hein, made in Taiwan. Mon père avait beaucoup, beaucoup de bébelles. Il était l'ancêtre un peu des Dollarama, pas mon père, mais il fournissait les 5, 10, 15 des kiosques un peu partout dans les dépanneurs. C'est ce que mon père faisait. Donc, c'était pas mal fait « made in Taiwan », puis c'était cheapo pas mal dans ce temps-là. Aujourd'hui, ben, c'est différent, hein, parce que les Taïwanais nous envoient des autos bientôt, hein, un jour. Et qu'est-ce qu'on fait avec les maisons? Hein? Il en manque. Il y a Trudeau qui fait beaucoup d'annonces en ce moment, mais il reste que la SCHL, la Société d'habitation, de logement, prévoit que d'ici 2026, ça va exploser les maisons. Hein? Mais ça vaut déjà cher. L'accès à la propriété est de plus en plus vieux. On est de plus en plus vieux pour s'acheter une maison. C'est pas au point de vue rentabilité, je le sais, je vous le répète, là, c'est pas le meilleur investissement si tu es capable de mettre de l'argent de côté. Hein? Mais si tu n'es pas capable, il reste que la maison, c'est un investissement forcé. Et est-ce qu'on va avoir un peuple de locataires? Ça se peut qu'on devienne un peuple de locataires. Pourquoi? Parce que on a mis trop de gens incompétents qui protègent plus leur arrière que le développement immobilier à l'ensemble du pays. Et c'est un peu ce que Justin Trudeau essaie de faire. Hein? Il essaie de renverser la vapeur. Le problème, c'est que Justin Trudeau est la solution au problème actuel, mais il est surtout l'instigateur de tous les problèmes qu'on a eus. Quand tu mets la gauche au pouvoir, et c'est ça qu'il faut retenir, hein? La gauche, avec la gauche dans les municipalités, tout le monde a peur, tout le monde a peur de prendre un risque, de dire, regarde, on va le faire. Regardez, j'essaie de faire ici des mini-maisons. Pourquoi des mini-maisons? Parce que je suis dans un coin perdu. Les gens, je veux faire de l'agriculture différente, je veux vous inviter sur ma ferme. Bien, il n'y a pas de place pour habiter, venir habiter. J'aimerais ça avoir des travailleurs étrangers éventuellement pour prendre l'expansion. Il n'y a pas de place pour les habiter, il faut que je construise. Donc, je me suis dit, bien, je vais faire un mélange des deux, des mini-maisons que vous pouvez venir passer un week-end, puis des mini-maisons où je peux avoir aussi des travailleurs étrangers. Bien, c'est pas possible. Parce que c'est un zonage agricole. Hein. On fait pas ça. On faudrait que je bâtisse un village à la place. T'sais. Mais ça, multiplier ça, on a une petite municipalité qui est dans ce cas-ci, chez les villes et non pas Notre-Dame-de-la-Paix. Grandissez ça dans les villes de Montréal. Grandissez ça partout. Et on a ce qu'on a. Hein. Donc, Justin Trudeau, qui est en mode électoral, il dit, écoutez, si vous ne voulez pas être ambitieux, gardez-le votre champ de compétences. Hein? L'affaire, c'est que je donne raison. Le problème, c'est qu'il a fait partie du problème. Et là, il essaie de faire partie de la solution à coût de milliards. On est déjà rendu à 9 milliards cette semaine d'annoncer. de choses supplémentaires. Mais c'est bien évident qu'avec le prix des maisons qui va augmenter, l'accès au logement qui va augmenter, il faut donner un coup de barre. Il faut arrêter le red tape et dire, faut pas faire des erreurs d'urbanisme. Je pense qu'on est capable de faire et de l'urbanisme et aller rapidement aussi. Là. Il n'y a pas un constructeur qui veut construire quelque chose tout croche, là. Mais il faut construire en hauteur. Il faut permettre la construction. Enlever toutes les... Vous parlez, hein? On parle de beaucoup d'agriculture, puis les agriculteurs sont dans la rue en ce moment pour dire, je vais en parler tantôt, mais je vais faire une petite parenthèse, ils sont dans la rue parce qu'ils disent qu'il y a trop de paperasse. Allez en parler aux promoteurs immobiliers, voir s'il y a trop de paperasse. Il y a trop de paperasse, point, au Canada. C'est ce qu'on veut. Il y a de la paperasse dans la transformation alimentaire. Il y en a partout, partout, partout. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on l'élimine, on l'élimine pour tout le monde, mais qu'est-ce qu'on enlève? C'est la question. Elle est là. Hein? Elle est là, elle est là, elle est là. Parlant d'éliminer là, les maudites subventions de marde, là. Hein? Je vous le dis que je suis contre les subventions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des subventions, ça me tape ses nerfs. Ça donne un avantage concurrentiel à des compagnies par rapport à d'autres. Hein? Donc, ça m'énerve bien raide, les subventions. On a donné des subventions au Club Med. Je n'étais pas contre. Je me suis dit, ben écoute, si on amène des étrangers à Charlevoix, ben parfait. Sauf qu'on n'amène pas personne. On devait créer, on a donné 120 millions, on devait créer 1350 emplois. Il en reste 50. 60. Hein? Donc, est-ce qu'ils vont leur demander de rembourser les subventions? Probablement pas. On a donné des subventions à Taïga un mois avant qu'il ferme. Hein? Faut-il être assez débile? C'est de notre argent, ça. Vont faire une autre montée de lait. Souci, ils font des tracts, eux autres, hein, pour le monde agricole, pour les tracteurs, pour les quatre roues. Ils sont dans le coin de Drummondville. Bien, en 2023, ils ont eu 12 millions de subventions. C'était supposé créer bien des emplois. Au mois de février 2024, je vous rappelle qu'on est en 2024 puis qu'on est au début avril, on a eu un autre 5 millions de subventions. Avril 2024, mettons deux mois après, congédient 30 % de leurs employés. Ceux qui donnent des subventions, ils pensent-tu que c'est des bonbons? Qui veut des bonbons? Qui veut des bonbons? C'est l'Halloween qui veut des bonbons? Fais-moi une petite chanson. Je veux des subventions, je veux pas payer. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Si, boire, on peut-tu arrêter les subventions? L'État interventionniste ne fonctionne pas. Encore ça, cet argent-là, est-ce qu'on va le récupérer? On s'en va, tu sais, le Québec, là. Je veux pas être négatif, faut être réaliste. Mais on va pas bien. On a un taux de chômage qui est à peu près de 6 %. Les États-Unis sont à 3 %, 3,5. Donc, ça va pas bien. Et ça va pas bien, puis on va à cause que ça va pas bien, vous allez voir que ça va aller pas mal moins bien avec ce qu'on va devoir faire avec les taux d'intérêt. Il faut se prendre par la main, mais il faut arrêter l'État interventionniste. Ça ne marche pas. C'est un gaspillage de fonds publics. Ces fonds-là, on en a besoin pour payer nos dettes maintenant. Même pas pour investir, juste pour payer la dette qu'on s'est créée, tout simplement. Hein? Quelque chose d'intéressant, mais je fais juste une petite parenthèse ici. Our Bodies, Our Sports. Il y a des athlètes féminins aux États-Unis. Il faut avoir un examen de conscience avec le mouvement olympique et tout le reste par rapport aux athlètes transgenres qui participent à des sports. Après la puberté, il reste qu'il y a un avantage physique vis-à-vis des hommes. C'est comme ça. Hein? On réinventera pas... La génétique, là, c'est comme ça pour. C'est ça. En tout cas, avec l'être humain. Les femmes, tu sais, parce qu'on voit certaines femmes des transgenres qui viennent compétitionner, on ne peut pas les empêcher d'être transgenres, de faire un changement de sexe, ça, on est pour ça, là. Mais est-ce qu'on est pour qu'ils viennent battre des records de façon effrontée dans des compétitions féminines? Bien, mettez-vous à la place d'une femme qui se fait battre royalement, qui est la championne du monde, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, il va falloir se poser, faire un examen de conscience pour dire, OK, parfait, mais ça, on ne peut pas permettre ça. Hein? Il va falloir mettre des balises extrêmement serrées parce que là, c'est une concurrence déloyale avec évidence. Puis, la nature étant ce qu'elle est, il y en a qui vont tricher pour avoir une médaille olympique. Il y a des gens qui ne sont pas bien, là, qui vont le faire que pour ça. On ne serait pas surpris, là. Avec la chaîne qui mangeait du bouillon de tortue à un moment donné, qui battait tous les records aux 10 000 mètres. Ben, c'était pas du bouillon de tortue, on s'entend, là. On s'entend de ça. Fait que il y a un examen de conscience. J'ai pas de réponse à ça. Là. J'ai pas un oui ou un non, mais je pense qu'il faut commencer à y penser. En tout cas, c'est en cours aux États-Unis. la manifestation d'agriculteurs. Ce qui se passe en Europe, là, ça fait des petits un peu partout, ici aussi. L'année passée, on a eu une mauvaise année, c'est bien évident. Hein? Est-ce que c'est dur l'agriculture? C'est dur l'entrepreneuriat. Puis je vais être obligé d'en parler à chaque fois qu'on en parle pour remettre les bémols. Hein? Si on veut systématiquement, comme agriculture, être compensé à 100% pour les mauvaises années, si c'est ça qu'on veut comme agriculteur, alors, quand ça va bien, on veut qu'il redonne une plus grande partie à l'État. On ne peut pas juste avoir le moment où ce qu'on gagne, ne pas partager, et le moment où ce qu'on perd, demander de venir tout compenser. Et on ne peut pas fonctionner comme ça. Sinon, on est dans un pays communiste. On a des agriculteurs qui opèrent une terre, ne sont pas des entrepreneurs, that's it. Donc, on ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas demander d'être compensé à 100%. Je le répète, quand ça va bien, faut investir, faut penser aux années qui vont moins bien aller. C'est comme ça. Prendre la relève d'une ferme qui vaut 14 millions, puis essayer d'en faire une ferme rentable alors que tu as 22 ans et tu viens de sortir de l'école, c'est sûr que tu es appelé à crever. Le père qui avait bâti cet empire-là, parce que bâtir une ferme qui vaut 10-14 millions, c'est un empire. Il ne peut pas en profiter, il ne peut pas y vendre à son fils. Je vous annonce là, que mon centre d'appel, je ne pourrais pas le vendre à mes fils. Et François Lambert.one, actuellement, je ne pourrais pas le vendre à mes enfants. Ils ne seront jamais capables de le rendre rentable. Là. Ça vaut quand même quelques millions, cette entreprise-là. Donc, il faut penser à ça. On rêve à des choses qu'on ne rêve pas dans d'autres types d'entreprises. Je veux bien croire qu'on nourrit le monde. Mais si on veut juste des opérateurs, ben on fait des opérateurs et on dit, regarde, voici, toi, tu t'en vas opérer cette ferme-là. Tu n'es pas un entrepreneur. Donc, il faut arrêter de penser que quand ça va mal, il faut compenser à 100%. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand même qu'on nourrit le monde, il faut accepter la concurrence étrangère. Les règles ici sont sévères. Les règles au Mexique, est-ce qu'ils sont aussi sévères qu'ici? La réponse est non. Mais ce qui rentre ici, on peut dire voici. Mettez-moi pas le lait dans l'équation. Là. Il n'y a pas de l'Américain qui rentre ici, très, très peu, à part du lait de catégorie 7. Là. Je connais mes affaires. Donc, mais il faut voir l'agriculture. Il faut arrêter de penser que faut aller voir les agriculteurs et dire, oui, c'est vrai, on va te compenser. Parce que plus l'année passée, bien, ça fait partie de l'équation. Moi, l'année passée, j'ai eu une mauvaise saison de récolte de tournesol. Mais puisqu'il fait beau, au moment où les graines de tournesol étaient en fleurs, ou les plants de tournesol, j'ai eu une récolte exceptionnel de miel. Donc, perdu une place, gagné de l'autre. C'est ça, des fermes diversifiées. C'est ça. Hein? Ça vous tente-tu de prendre le métro à Montréal? Moi, honnêtement, je ne le prends jamais. Je ne le prends pas souvent. Mais quand je regarde les attaques le soir, est-ce que ça me tente vraiment? Non. Le métro de Montréal commence à faire penser au métro de New York où on avait peur. Hein? À un moment donné, c'était, on n'y allait pas, mais on lisait. Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le métro de Montréal. Mais ça rajoute encore à le sentiment d'insécurité qui se crée de jour en jour à Montréal. C'est de plus en plus présent maintenant que des choses qui nous fait penser une métropole hors contrôle. Puis on peut le régler. C'est faux de penser que Valérie Plante n'est pas responsable de ça. Regardez le maire Giuliani, je pense, c'était lui qui était là, qui est devenu le défenseur de Trump et qui a mal tourné, là. Mais à un moment donné, il avait mis de l'ordre dans New York, hein? Et après ça, Bloomberg aussi. Les maires sont capables de faire des choses différentes pour la ville et faire que la ville, on est capable de régler. Donc, il y a un article dans la presse samedi qui un gars dit, écoute, est-ce que Valérie Plante est encore l'homme de la situation? C'est elle qui avait déclaré, je suis l'homme de la situation, en étant féministe, là. 7 ans plus tard, faut vraiment avoir des œillères et de penser que Valérie Plante est la bonne personne. Elle est la pire mère qu'on a rencontrée, que bien évidemment, on voit l'état de la ville. Je parle souvent de l'état des finances de la ville. On parle des rues qui sont laides. On parle des constructions qu'on a refusé de faire. Puis elle était fière, elle est allée le dire. J'ai refusé 10 000 logements parce que ça aurait créé plus d'auto, hein, ou 5 000. Donc, elle est fière de l'avoir dit, mais regardez l'état de la ville en ce moment. Voilà. Hein. On multiplie ça avec la ville de Québec, puis après ça, on se demande pourquoi on a un taux de chômage. Imaginez-vous si on a une pénurie de logements, on a un taux de chômage qui est élevé, puis on ne fait pas de construction. En même temps, ben, elle rajoute du staff, sans blague, sans cesse. Donc maintenant, dans le STM, on a des ambassadeurs de sûreté. On avait la police, là, on a des ambassadeurs de sûreté. C'est ce qui était avant de devenir une police. Et maintenant, ils vont faire une grève, ces gens-là, pour dire, on fait la même chose que la police, on veut être payé comme eux autres. Sincèrement, ça finit plus. ça prend un coup de barre à Montréal dans l'ensemble de l'œuvre, parce que là, Montréal fait partie des villes où ça fait peur. Hein? Donnez-moi votre avis, justement. Vous n'êtes jamais venu à Montréal, vous venez rarement. Est-ce que les nouvelles comme ça vous font peur? Moi, pour un citoyen de Montréal, j'hésiterais à prendre le métro le soir, à ce que je vois à ce moment. J'hésiterais. Et pourtant, j'ai pas peur de Montréal, mais je commence à avoir des doutes. Donc, est-ce que Valérie, après 7 ans, elle est l'homme de la situation? Elle l'a jamais été, mais le temps fait son œuvre et c'est de pire en pire parce qu'elle ne sait pas comment virer la situation, tout simplement. Le 7 avril, je m'en vais en 1987. Et ça, écoute, on n'en entend plus parler, là, mais je pense que vous allez aimer ça. T'es où, Colin? T'es où, mon Firefox? C'est bien bizarre, ça. Ah, ici. Ben. Première chose, avant, complexe immobilier et hôtelier prévu au plan de rénovation du Vieux-Port. On est en 1987 et on parle encore du quai la jetée Bickerdike, qui est toujours pas construite, hein? Le port de Montréal, le quai de l'Horloge. Donc, en 1987, on avait fait un plan pour densifier. On parle de densification là aujourd'hui, en 2024. Donc, ça fait 87, 13 ans, plus 24 ans, 37 ans, ça? 13 ans, 87, 90, 13, plus 24, 37. 37. voyons, Colin, oui, c'est ça. Donc, il y a 37 ans, on parlait de densifier, alors que ça n'a pas été fait encore. Hein? Bien, on le voit, on en parle tout le temps, mais on ne le fait pas. On revient avec des études, puis des études, puis des études. Depuis, ça, c'est en 87, là, on devait construire 17 000 nouveaux logements à l'extrémité de l'emplacement depuis la rue Berry. On ne l'a pas fait. Hein? Donc, le Vieux-Port est exactement le même Vieux-Port qu'en 1987, à peu près. Là, donc, mais je vous amène, vous vous souvenez-vous des pluies acides, hein? Reagan fait l'éloge du libre-échange, on était justement là-dedans avec Brian Mulroney et Ronald Reagan. Washington est prêt à envisager un traité sur les pluies acides, hein? On parlait de ça avant, là. Tu pleuvais, t'avais peur d'avoir de l'acide sur la tête. Fini, ça. J'imagine qu'il doit en avoir encore un peu, mais on n'en parle presque plus. Donc, voilà. Puis en même temps, soit soumise à un contrôle plus strict et qu'elle soit placée sous l'autorité. À la bourse, poursuivant son ascension spectaculaire de vendredi, l'indice Dow Jones de la Bourse de New York enregistre une hausse de 15,2 points, terminant la journée à 2400. 2400 points, on est en 87. Qu'est-ce qu'il vaut Dow Jones aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vaut? 2400, on est en 38 000 points. Il y a une belle progression quand même hein, depuis 37 ans. Imaginez-vous, vous auriez placé votre argent à chaque mois dans le Dow Jones. Je parle du S&P 500. Il y a une belle progression aussi. Mais regardez, de 2400 à 3400, c'est une augmentation fantastique au courant des 37 dernières années. La bourse reste toujours quand même un placement risqué, mais sur le long terme, toujours assez payant. Surtout si on se diversifie dans des fonds indiciels qui n'existaient pas quand même avant, mais qui existent aujourd'hui. En finance, le dollar canadien. Là, on a un taux de chômage plus élevé qu'aux États-Unis. Donc, les effets des taux d'intérêt commencent à porter ses fruits. Hein? Parce que on a voulu ralentir l'économie. On l'a ralenti. L'inflation est encore un peu élevée, pas encore à 2% comme on veut l'avoir. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Hein? La Banque du Canada va devoir réduire les taux d'intérêt à un moment donné parce que là, elle ne veut pas être accusée non plus d'amener le pays en récession, qu'on est déjà un petit peu. Hein? Le dollar canadien, qui est en ce moment à 73,56. Donc, si on baisse les taux d'intérêt, venez placer de l'argent au Canada, devient moins intéressant pour les grandes entreprises. Pas pour nous autres, là, pour les grands placements. Donc, pas intéressant. Le dollar va baisser. Donc, le dollar va nous rendre plus compétitifs au point de vue des États-Unis pour vendre des produits, bien entendu, mais on va perdre comme individu. Souvent, c'est plus quand le dollar descend, c'est les individus plus qui perdent que les entreprises parce qu'on devient plus compétitif au point de vue mondial parce que on n'est pas productif au Canada. On n'est pas compétitif. Les chiffres sont sortis. On produit 23$ de moins de l'heure que les États-Unis. Donc, pour que ça vaille la peine, il faut que le dollar soit plus bas pour que les gens viennent investir ici. Et on n'est pas productif. Donc, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui peuvent être victimes d'un takeover, parce que là, on devient pas cher. Donc, on peut se faire acheter des entreprises. Donc, lorsqu'on va voir le dollar en bas de 70 cents cet été, ben là, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec certaines entreprises fragiles un peu, mais avec un bon potentiel que les États-Unis pourraient acheter. Souci que je viens de parler, ben, s'ils commencent à congédier, puis une belle technologie, pourrait être victime d'un acheteur éventuel américain. Je suppose que c'est ça, mais c'est le genre de situation qui va se passer lorsque le dollar va être plus bas, puis il s'en va vers là, tout simplement. On n'a pas le choix. On n'est pas compétitif. Le taux de chômage est plus élevé, donc on doit baisser les taux d'intérêt. Et une baisse des taux d'intérêt veut dire, oui, la bourse va augmenter au point de vue de Toronto, mais au point de vue dollar. Ce qui nous sauve en ce moment du dollar, c'est que les gens achètent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'or et le Canada est un pays producteur d'or, donc ça nous aide énormément. Est-ce qu'on devrait investir dans Amazon pour le long terme? Regardez ça ici, je vais me mettre en bas là. Bon, parfait. Regardez Amazon. Amazon, il y a une belle progression, mettons, sur un an. Une belle progression d'Amazon. Amazon, en ce moment, a généré en 2023 32 milliards de profits, de cash flow, de free cash flow. Hein? Donc, d'argent disponible à investir. On prévoit en 2024 64 milliards. Hey, c'est de l'argent. Là. C'est de l'argent. Ça, il peut. Amazon pourrait l'année prochaine effacer la dette du Canada. Pas le déficit, là. La dette annuelle du Canada. D'un seul coup. Tiens, on va faire un petit cadeau au Canada. Hein? Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'on devrait investir? Ben, je pense que c'est intéressant. Moi, je ne fais pas de recommandations d'achat. Je vous parle de ce qu'il y en est. Hein? En même temps, regardez Tesla maintenant, pendant qu'on est là. Tesla vaut 164 $, encore diminué vendredi de 3 %. Pourquoi? Parce que là, Tesla n'est pas Volkswagen. Dans le style que Volkswagen, quand ils sont arrivés avec la coccinelle, c'est une révolution, c'était l'auto du peuple. Et Tesla a voulu être l'auto du peuple en visant un prix d'élite. Ils ont baissé les prix, baissé les prix, baissé les prix. Mais là, la réalité est tout autre. Ils se font faire de la concurrence énorme en Chine. BYD, Xiaomi, tous ces gens-là s'en viennent maintenant s'installer. Ils ne peuvent pas vendre direct parce qu'on est colons, donc ils vont s'installer au Mexique, ils vont s'installer en Hongrie, ils vont s'installer où ce qu'ils doivent s'installer, mais il y a une grande pression. Donc, dans le court terme, l'action, on prévoit l'action de Tesla. Est-ce que c'est un placement? C'est pas bon pour personne en passant que Tesla va descendre peut-être à 130 $ selon les estimations, parce que les bonnes nouvelles ne sont pas là. Et ils n'ont plus d'avantages concurrentiels par rapport aux autres, à part l'autonomie de conduite. Donc, on prévoit, les analystes prévoient un titre à 130$, il est à 163$. Il diminue constamment, si on regarde depuis 5 ans. Son plus élevé était à presque 400$. Donc, on le voit qu'il a atteint son maximum et là, il dégringole. Puis, il va se faire concurrence sur ses propres marchés. Il y a d'autres concessionnaires, d'autres constructeurs aussi américains qui s'amènent avec des autos électriques. Donc, est-ce que c'est le rêve est terminé? Non, il revient juste normal parce qu'à un moment donné, Tesla valait plus que tous les constructeurs du monde en auto. À un moment donné, ça n'avait pas de sens et là, la réalité revient. À un moment donné, les chiffres ne mentent pas. Hein? Rapidement, je vous montre aussi, pendant qu'on est là, Nvidia qu'on parle presque tout le temps. Tout le temps, regardez la progression fantastique. Elle a augmenté de 2,45 vendredi. Nvidia. Je suis tombé sur un article, ben je vais vous le montrer là, pour ceux qui peuvent le voir. Voyons, Colin, il est où? C'est bien fatigant ça, je trouve pas ma page. Ah ok, je l'ai ici. Un article, j'aime mieux vous le montrer, c'est plus simple. Je vais le dire en anglais puis je vais vous le traduire là. It's better to be lucky than smart. Ça, c'est l'expression. Hein? C'est bien mieux d'être chanceux que d'être intelligent. Parce que ça ne veut pas dire parce que tu es intelligent que tu vas réussir. In this case, on parle de Nvidia. They were lucky, they were smart, and they were hardworking. C'est ça qui fait qu'Nvidia aujourd'hui récolte les fruits de tout le travail qu'il fait depuis 30 ans à peu près. They're riding an exponential wave, and that's the reason you have a 2 trillion company so quickly. Donc, c'est un professeur d'intelligence artificielle qui dit ça. C'est sûr que vous me le demandez souvent, est-ce que tu es chanceux? Bien, la chance, on la fabrique. Elle n'existe pas, la chance. On la fabrique, cette chance-là, en affaires. Enfin, en travaillant plus fort, en étant visionnaire, en étant positionné, en n'étant pas le secret le mieux gardé. Et avec toutes ces choses-là, à un moment donné, 30 ans plus tard, on va se faire dire qu'on est chanceux. On va avoir oublié. Nvidia, ça a l'air de 10,000 hours over 10 years will make you look like an overnight success. Ben, imaginez-vous des milliers d'employés qui travaillent fort, intelligemment, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ben, c'est ce que ça donne Nvidia aujourd'hui. Donc, c'est ça. Le secret, c'est de travailler intelligemment. Pas être intelligent. Je ne me considère pas pantoute une personne intelligente. Puis personne ne peut se dire, moi, je suis un super génie. Puis la plupart des super génies ne deviennent pas avec des entreprises de 2 trilliards. Hein. Ça prend un ensemble de facteurs, mais il faut être visionnaire, ne pas avoir peur, travailler plus fort que la concurrence constamment, constamment. Et moi, ça m'inspire parce que c'est ma philosophie et c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, bien entendu, qui travaillent avec nous, avec les employés. Donc, il faut juste travailler plus fort, plus intelligemment que les autres et on va voir ce que ça va donner. On peut pas le savoir. On va le savoir à un moment donné. On a une vision, on y pense, mais ça peut prendre 20 ans avant qu'elle soit réalisée. Il faut être patient, très, très patient. Donc, voilà, voilà. La génération X, je suis tombé sur un super article du New York Times. J'ai beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais ça se termine bientôt. Il me reste les insolites après. On a parlé des boomers qui s'en vont à la retraite, qui font un transfert d'argent vers leurs enfants ou leurs petits-enfants. Mais la génération X, la génération oubliée, qui est la mienne, on s'en vient à la retraite. Hein? J'avais goûté à 42 ans, mais là, la vraie retraite. Je parlais avec un ami vendredi qui a vendu son entreprise. Il leur a donné 2 ans. Hein? Une première année, il travaille 4 jours par semaine. La deuxième année, il faut qu'il donne 100 jours. Puis après ça, bien, il peut prendre sa retraite s'il le désire. Donc, on vient, nous aussi, on approche. Moi, j'ai 5 ans, je vais avoir 57 ans cet été. Je me donne encore un bon 7-8 ans, mais la question se pose, parce qu'on parle de pénurie de maison, mais les boomers, les générations X, où est-ce qu'ils veulent habiter? Je me pose cette question-là, moi aussi. Est-ce que je vais rester dans la maison à Outremont quand mes enfants vont être partis ou aller habiter en condo avec Marilyn? La maison que j'ai, elle est parfaite, elle est bonne, mais je vous le cache pas, là, nous, puis je le dis régulièrement, on dort pas dans les mêmes chambres. Parce que moi, je suis un oiseau de nuit, elle, elle veut dormir, et c'est sûr que plus on va approcher la retraite, de part et d'autre, ben elle est encore jeune, elle a 40 ans, elle. Donc, on va... on va avoir moins d'obligations à faire, donc on va avoir plus de temps pour dormir, donc ça elle peut... Si on habite ensemble un jour, ben ça va prendre une autre maison avec 2 chambres des maîtres. Donc, c'est ce qu'on est en train de penser, mais pas à court terme. Mais la génération X commence à se poser des questions. Est-ce que je vais avoir un condo en Floride ou je vais le louer? Est-ce que je vais aller au Costa Rica? Est-ce que je veux rester juste ici au Québec? Il reste que je n'y pense pas tous les jours. Mais loin de là, mais ça commence à faire partie de ma réflexion de faire une transition vers un autre style de vie et passer le flambeau. Si on veut un transfert d'entreprise qui marche, faut pas attendre d'être en mauvaise santé à 80 ans. Faut le faire graduellement pour que la relève, qui j'espère va être mes fils, sinon ça sera quelqu'un d'autre, là, mais qui prenne la relève de cette entreprise-là, puis qui la continue. Mais pour ça, faut que je sois là encore présent. Donc, la génération X commence à y penser. Commence à y penser, puis va faire partie des gens qui vont soit libérer des maisons, ou soit en enlever à la génération plus jeune. 72% des générations X actuellement ont des maisons. Les millennials, ceux qui suivent, ont 55% en ont des maisons aux autres. Et salut. J'adore lire les journaux anglais. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de thé presque à tous les jours et ça me fait rire. Vous vous souvenez, hein, la plupart, vous m'en reparlez à l'occasion, que de tremper un biscuit dans le thé, c'est 0,3 secondes, qu'il soit parfaitement mou, mais encore bon, et non pas un pâté. Là. Ben là, les Anglais ont déterminé quel était le biscuit préféré pour tremper dans le thé, justement, parce que c'est une tradition. Les gens mangent, trempent leur biscuit dans le thé. 40% vont prendre un thé puis le tremper un petit biscuit dedans. Donc, 42% vont préférer un petit biscuit au chocolat et 43% vont aimer un petit biscuit sablé. Donc, Si tu vas prendre un thé, un jour je vais le faire, là, je le sais, je vais être déçu, mais ça fait partie de mon bucket list, mes fantasmes. Avez-vous aimé Barbie? Hein? C'est, en 2023, on ne pouvait presque pas dire qu'on n'aimait pas Barbie, tout le monde aimait Barbie. Moi, j'ai dormi, j'étais allé au cinéma, j'allais le voir à Paris. Shakira vient de dire, moi, j'ai trouvé ça castrateur. Pas aimé ça, puis mes fils non plus. Fait que ça fait la nouvelle. Dire que t'es contre Barbie, c'est pas une fête. Ordinaire. C'est un divertissement. Là. C'est pas un grand film. Là. Il y a un homme en Ontario. Lui, il est en cours en ce moment. Parce que il veut devenir un autre sexe que mâle. Mais il veut garder son organe masculin. Il veut se faire poser un organe féminin à côté. C'est en cours en ce moment parce qu'il veut que l'État paye. Il veut garder les deux. Ben, il va en avoir un nouveau. Puis là. Ben, sur ça, je vais dire ça. Hein? Merci d'être là. Hein? Ben, merci. Puis venez nous voir sur françoislambert.one et je vous souhaite un excellent dimanche. Bonne journée tout le monde. Bye.